7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain. Les JPAG, jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent, c'est notre sujet. Vous êtes jeune diplômé ou un peu plus expérimenté, vous avez des idées, vous avez un business plan pour votre continent, mais vous découvrez aussi les difficultés d'entreprendre. C'est donc un coach qu'il vous faut. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur général d'Afrique Search et vous passez chaque mois dans notre émission. Vous êtes déjà en train de feuilleter les fiches des voisins qui vont dialoguer avec vous dans notre émission. Vous écoutez les jeunes, parlez de leurs projets, vous répondez à leurs questions et souvent vous leur permettez aussi de réfléchir un peu autrement à leur entreprise naissante. Tomber, se relever, conserver son optimisme, ça compte, hein, tout en étant capable de changer de cap. Vous nous appelez dès maintenant, les voisins et les voisines, pour participer à l'émission au 33 1 84 22 71 71. Également une adresse mail pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts mais qui ont envie d'envoyer leur projet à notre standard et pour passer le mois prochain, 7milliards@rfi.fr. Hey, les JPAG, jeunes patrons de l'Afrique qui gagne. Vous transformez l'Afrique et ça serait bien que le monde le sache.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akouété.
Didier Akouété, vous rentrez de Singapour. Et comme chaque fois, d'ailleurs, vous rentrez souvent de mauvaise humeur.
Vous savez, on dit toujours, l'Afrique était devant Singapour. Lee Kuan Yew, quand il était à Abidjan, a dit, j'aimerais que Singapour ressemble un jour à la Côte d'Ivoire. Mais enfin, bref, au bout de 40 ans, on voit bien que l'Afrique a complètement échoué dans son développement et que l'Asie du Sud-Est
a plutôt... En tout cas, c'est plus long que prévu, on va dire.
C'est plus long que prévu, mais en tout cas, c'est un échec. Et quand on voit, effectivement, les trajectoires des, ce qu'on appelle les dragons, hein, comme Singapour, effectivement, on s'interroge sur ce que l'Afrique a mal fait. Mais en tout cas, par rapport à nos entrepreneurs, l'idée simplement sur laquelle je voulais rebondir, c'est que, vous savez, lorsque je vois des projets qui sont mis en place par les gouvernements pour soutenir les jeunes entrepreneurs, à qui on donne un petit billet, un petit 100 000, un petit 20 000, et puis 6 mois après, le jeune, évidemment, a tout bouffé et revient toujours sans rien en cherchant l'emploi, je dis un écosystème qu'il faut créer différemment, comme ce que les Singapouriens ont fait, même en matière de financement. Exemple, lorsque vous mettez 1 euro ou 1 dollar sur un projet, l'État abonde avec 4 dollars pour encourager ce qu'on appelle les business angels, les venture capitalistes, pour les encourager à soutenir les projets. Donc, c'est-à-dire que l'État aussi joue son rôle d'accompagnement des porteurs de projets avec, bien sûr, tout ce qu'on appelle les systèmes d'incubation, d'accompagnement qui sont mis en place. Et donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. L'entrepreneuriat, c'est pas hasard. Il y a un écosystème à mettre en place. Et donc, c'est un
peu... Ça, c'est un message pour les États africains, mais pour les entrepreneurs africains, de quoi se décourager alors s'il n'y a pas les 4 euros qui suivent derrière les 1 euro de l'investisseur de départ?
Eh bien, c'est souvent le cas. Donc, les projets étouffent rapidement. Parce que quand vous avez un projet de 10 millions de CFA, qu'on vous donne 150 000, vous imaginez bien que ce n'est pas le même projet du tout. Et donc, on se trompe souvent sur la question financière des projets. Un projet qui vaut 10 millions, il faut savoir qu'avec 100 000, ce n'est plus le même projet. Donc, il faut complètement le revoir, le redimensionner. Et souvent, les gens ne le font pas. Et donc, une fois de plus, si l'État veut encourager l'entrepreneurship, il y a un certain nombre de conditions et un certain environnement à mettre en place. Et donc,
le message est bien passé. Néanmoins, on reçoit dans cette émission des porteurs de projets qui, au fil des mois ou des années, parviennent à grandir malgré l'absence de l'État. Mais c'est vrai, vous avez bien raison, il faut le souligner. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez passer dans une émission prochaine, nous écrire à 7milliards@rfi.fr et évidemment avoir un business plan, un document prêt pour bien montrer que vous avez réfléchi à votre projet, voire effectué des études de marché, voire déjà lancé votre petite entreprise.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
33 1 84 22 71 71. On donne la parole à une première porteuse de projet. Bonjour Geneviève Mouton.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Didier.
Bonjour Geneviève.
Geneviève, votre projet n'est pas à proprement parler un projet commercial, même pas du tout pour le moment. Au départ, vous souhaitiez monter une mutuelle de santé. Vous êtes d'origine togolaise. Vous avez fait vos études à Lille 3 en psychologie du travail et puis aussi en Belgique à Louvain-la-Neuve. Vous avez un cabinet de psychologue, ça c'est votre vie professionnelle, mais votre projet il a déjà démarré, ça s'appelle Action Access Santé. Il est lancé depuis 3 mois avec des amis de la diaspora, diplômés et puis désireux de s'investir. Expliquez-nous de quoi il s'agit parce qu'il s'est transformé par la force des choses en projet social, en projet humanitaire pour le moment, mais vous avez d'autres idées ensuite.
Merci. Donc, le projet Action Access Santé a vu le jour, on va dire, le 1er juin 2018. Mais l'association Access Santé a vu le jour en février 2016. Et nous avons lancé un premier projet autour de l'axe numéro 1 de nos objectifs, qui est de mobiliser toutes les forces vives de la diaspora pour pouvoir aller soigner, permettre aux personnes qui sont restées de l'autre côté pour bénéficier des soins de santé. Ça, c'est l'axe 1 de notre projet.
C'est-à-dire, voilà, très clairement, je suis membre de la diaspora, j'ai envie de m'investir, je suis souvent sollicitée pour envoyer de l'argent pour faire soigner une cousine, une tante malade ou un enfant. Comment ça fonctionne très concrètement, en quelques mots ?
Très concrètement, vous parrainez, vous adhérez à l'association Action Access Santé, et vous parrainez un proche. C'est comme un système de mutuelle. Hein. Vraiment, on mutualise nos forces pour assurer l'accès aux soins de nos proches.
Une sorte de tontine à partir de la diaspora, d'une certaine manière.
Voilà, une sorte de tontine de la diaspora. Donc, vous parrainez, par exemple, Koyo, qui est votre proche de l'autre côté. Alors, Koyo est contacté directement par notre partenaire sur place. Le partenaire contacte Koyo, fait lui faire suivre certaines analyses médicales et si le dossier est validé, alors Koyo est assuré chez ce partenaire-là.
C'est une mutuelle au Togo en l'occurrence.
C'est une ONG, c'est pas une mutuelle en tant que telle. C'est une ONG dans le domaine de la santé.
Oui, d'accord. Et donc ensuite ?
Ensuite, lorsque Koyo tombe malade, il va dans les structures de soins qui sont partenaires avec nous et cette ONG. Voilà. Et il bénéficie des soins de santé et il a aussi toute la liste des pharmacies dans lesquelles il peut y aller pour obtenir les produits.
Ça veut dire que l'argent qui a été versé par la diaspora transite par cette organisation partenaire humanitaire.
Voilà, donc l'argent de la diaspora d'abord passe par nous et est transféré vers cette ONG.
D'accord.
Partenaire.
Aujourd'hui, donc pour l'instant, on est dans un projet humanitaire financé à 100% par les membres de la diaspora qui veulent s'investir, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Sauf que vous voulez aller plus loin et d'où votre question à Didier Akwété ?
Oui, en fait, notre vision est sur 2 volets. Le volet 1, c'est l'accès aux soins. Le volet 2, c'est vraiment faire appel aux compétences des personnes de la diaspora dans le domaine de la santé pour vraiment aller équiper, former et relever le système de santé en Afrique et particulièrement au Togo. Parce que le système de soins dans nos pays est dans un état très, très, très alarmant. Et on voit aujourd'hui qu'il y a à peine 8% de la population qui est couverte et il y a énormément de déserts médicaux. Mmh. Alors, la diaspora, les compétences, on veut les mobiliser pour aller former, équiper et aussi, ce qui nous intéresse vraiment, c'est aussi le e-diagnostic. Parce que les compétences sont ici, ne sont pas sur le terrain. On souhaite les mobiliser. Par exemple, s'ils vont au Togo ou en Afrique pour des vacances, ils nous donnent un don de temps pour pouvoir organiser des formations ou faire des consultations. Ça, c'est sur place.
Oui.
Mais il peut y avoir des moments où on a des difficultés pour poser des bons diagnostics sur le terrain. Alors, dans ce cas-là, on souhaite vraiment faire un partenariat avec la diaspora ici, les personnes dans le domaine de la santé, pour vraiment regarder dans le dossier, demander un certain nombre d'analyses, poser les vrais diagnostics Et s'il faut envoyer des médicaments, et s'il faut se déplacer, alors on le fera aussi. Ça, c'est notre deuxième volet qui nous tient à cœur. Et pour ça, nous avons besoin de Didier aujourd'hui. Parce que lorsque nous présentons le projet, il y a un grand enthousiasme. Les gens sont super ouverts. Mais pour l'instant, on n'a pas autant d'engouement au niveau du corps médical de la diaspora pour se joindre à nous.
Parce que c'est coûteux en temps et en moyens pour la diaspora, c'est pour coûteux. Des médecins togolais qui sont installés par exemple en Europe ou en Amérique.
Voilà.
Didier à côté.
C'est effectivement un moyen de répondre à des besoins sociaux, de santé, presque humanitaires, puisqu'on déplore souvent que le fait que les 50 à 70 milliards de dollars qui sont transférés par la diaspora chaque année, une bonne partie de ce montant va en fait dans les besoins quotidiens, notamment l'alimentation, et peu finalement vont vers les secteurs sociaux structurants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que...
Santé, éducation.
Exactement. Ça veut dire que demain, à travers un projet comme celui-là, on peut effectivement apporter une réponse immédiate à un besoin de santé ou social, mais le système ne peut pas être viable s'il n'y a pas de parrain. Et c'est un peu ce que déplore Geneviève. Alors, il y a peut-être une façon d'amplifier ce type de projet. Imaginez que vous arrivez à mobiliser donc 100 personnes qui acceptent de parrainer à hauteur de 20 euros chaque enfant. Vous avez donc des organismes qui, en fait, peuvent gérer cette ressource, puisque le système des assurances, vous savez, c'est que on engage la dépense que si l'accident se produit, ou si la personne, entre guillemets, se rend dans un établissement de santé. Et statistiquement, les assureurs font des statistiques pour que les dépenses qui seront engagées soient inférieures à ce qui a été collecté. Donc, si vous arrivez à élaborer des statistiques pour que les dépenses qui seront effectivement engagées soient inférieures à ce qui aurait été contribué, vous pourrez utiliser une partie des ressources pendant
qui
que les dépenses
du parrainage.
Exactement, qui ne sont pas engagées pour les faire fructifier. En d'autres termes, vous placez une partie de cet argent temporairement, en sachant que c'est mobilisable à tout moment, pour que cette cagnotte constitue en réalité un petit fonds d'investissement qui n'est en réalité utilisé que lorsque la dépense est engagée par celui qui bénéficie de la prestation.
Donc, et ce qui n'est pas utilisé,
premier élément,
servirait à quoi, par exemple ?
En fait, à le placer.
Oui.
En fait, on place cette ressource pour qu'elle puisse générer des ressources additionnelles pour permettre justement d'augmenter finalement la cagnotte disponible. Donc, premier élément, il y a probablement une idée de gestion financière par rapport aux ressources qui seraient mobilisées. Et deuxièmement, dans le même ordre d'idée, je sais qu'il y a des organisations qui permettent, lorsque vous mettez un, d'abonder avec un autre euro supplémentaire. Donc, lorsque vous avez quelqu'un de la diaspora qui parraine à hauteur de 20 euros, un organisme peut abonder pour 20 euros supplémentaires en sachant qu'en réalité, c'est simplement une manière de placer ces 20 euros supplémentaires pour vous permettre en réalité de générer des ressources additionnelles. Donc, il y a une dimension financière, à mon avis, qu'il faut regarder dans le cadre du projet.
Et qui serait cet organisme, par exemple, qui abonderait, qui pourrait surenchérir par rapport à la générosité des membres de la diaspora ?
Ça peut être des fonds sociaux. Vous savez, vous avez des fonds qui, en fait, dont
qui
la
peuvent
vocation...
peuvent se déclencher quand il y a déjà des bénévoles qui veulent s'investir.
Parce qu'en contrepartie... Soit ça fait partie de la RSE de ces organisations.
La responsabilité sociale des entreprises.
Ou alors parce que ces fonds sont adossés à des groupes pharmaceutiques ou des groupes de santé. Donc, qui, du coup, en contrepartie aussi d'un parrainage et de la gestion collégiale de ces ressources, sont prêtes à abonder en matière de financement lorsque vous collectez déjà des ressources. Mais ça, c'est vraiment la partie financière. Le deuxième volet concernant la diaspora, parce que ça, c'est un vrai sujet...
La mobilisation de la diaspora médicale.
Exactement, c'est que... Évidemment, les talents diaspora qui sont occupés par ailleurs ne sont pas prêtes à prendre un billet, à aller passer du temps forcément sur le terrain.
Ou même à faire du diagnostic à distance, via de l'imagerie, par exemple, le soir ou le week-end.
C'est vrai. En revanche... Vous avez certains de la diaspora qui vont en vacances, donc sur leur propre denier, et qui vous donnent un calendrier en disant, voilà, moi, au mois d'octobre, je serai à Lomé ou je serai à Dakar pendant 10 jours. Eh ben, nous avons ce calendrier, et donc, pendant une ou deux journées, on essaie de les mobiliser sur des projets sociaux et certains sont prêts à le faire. Troisièmement, vous avez des organisations comme le projet Tocten du PNUD. Je ne sais plus très bien comment ça fonctionne aujourd'hui, mais le principe, c'est de financer le transfert d'expertise de la diaspora sur des périodes données. En d'autres termes, un médecin togolais qui est prêt à donner un peu de son temps, le programme du PNUD va payer son billet, va payer son séjour et donc va faciliter son déplacement et donc le médecin en question est prêt à consacrer une ou deux journées dans le cadre de son déplacement sur le terrain.
Et ça, c'est plus facile à envisager.
Exactement. Et donc, ce n'est pas l'association qui mobilise ses ressources additionnelles. Donc, dans le fond, c'est un très beau projet. Comment capitaliser sur les premières ressources qui vont rentrer? Donc, il y a une dimension gestion financière. Et ensuite, la mobilisation de partenaires au développement qui peuvent soutenir éventuellement les déplacements des médecins.
Geneviève, Action Access Santé a été lancée il y a 3 mois. Pour le moment, quel est le bilan que vous faites sur les parrainages déjà?
Et puis ces idées, en fait.
C'est ça.
Aujourd'hui, on va dire au niveau de l'adhésion des membres qui adhèrent à l'association, nous dénombrons une cinquantaine de personnes. Donc, il y a quand même un engouement pour les idées et la vision du projet. En revanche, en ce qui concerne le parrainage, on ne suit pas la même courbe. C'est là la difficulté. Là, on a comme l'impression que les gens adhèrent, mais pour nous donner, nous confier leurs sous en termes de parrainage, peut-être qu'ils attendent un peu de voir les preuves de l'association. Pour l'instant, on n'a pas autant de parrainage qu'on le souhaiterait. Voilà.
Le parrainage peut être ouvert à d'autres personnes que des ressortissants du pays dans lequel le projet se déploie.
Oui, c'est déjà le cas.
Vous savez, sur ces plateformes de mobilisation, comme on a vu depuis des années, pour aider des populations démunies ou aller en sponsoring, aujourd'hui, les réseaux sociaux, effectivement, peuvent permettre d'amplifier ce que vous avez déjà démarré, en sachant que, comme ce n'est pas couvert à des Togolais, le principe du parrainage, qui est ouvert à d'autres personnes qui veulent aider un enfant ou apporter une contribution.
Geneviève, c'est déjà le cas,
aider, hein.
je crois. Mais comment vous réagissez par rapport toutes les pistes que Didier vous a données, alors?
Ah ouais, c'est tout à fait encourageant. Ce que Didier vient nous donner nous éclaire aussi à comment vraiment amplifier tout ce côté de récolter des fonds pour pouvoir mettre, on va dire, en action toutes les belles idées qu'on a.
Mais de ce que je comprends de ce que vous dites, le parrainage ne prend pas aussi bien que ce que vous espériez, c'est parce qu'il y a un problème de confiance.
Oui, c'est ce qu'on se dit, parce que c'est le début, les gens ne nous connaissent pas, et donc peut-être qu'ils attendent d'avoir des retours. Hein. Et c'est à nous aussi, peut-être, de faire tout ce travail autour du volet 2, de l'acte 2, de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement.
Pour montrer que c'est un projet qui est beaucoup plus complet, qui voit plus loin. Mais on est bien d'accord en conclusion, Didier, à côté, parce qu'on a d'autres auditeurs qui veulent dialoguer avec vous, avec le coach. Mais en conclusion, on est d'accord que le projet de Geneviève, le besoin de la diaspora d'investir de l'argent sur des projets pour venir en aide à la santé de ses proches, la famille, en étant sûr que l'argent arrive sur ses postes de dépenses santé, c'est un problème quotidien. Quand on regarde les sollicitations de la diaspora, non ?
Donc c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Et en plus, le problème, c'est que parfois, les ressources qui sont mobilisées ne sont pas utilisées pour les questions de santé, mais après pour des questions alimentaires de base. Et peut-être la question de confiance que pose Geneviève, vous savez, généralement aussi dans ces projets, il y a ce qu'on va appeler le comité de parrainage, dans lequel vous pouvez mettre 2-3 personnalités qui sont bien connues par les internautes, par les Togolais, par les Africains, et qui peuvent donc inspirer confiance des personnes qui ont travaillé dans des organisations internationales, qui sont bien connues, et qui du coup deviennent un peu les visages crédibles vis-à-vis de votre marché pour assurer
l'équipe de Action Access Santé.
Ceux qui peuvent donner de l'argent.
Merci à vous Geneviève, en tout cas bonne
merci
chance.
Merci à vous, merci aux éditeurs et vraiment merci à Didier pour ces tes conseils très avisés.
Bonne chance, Geneviève. Bonne chance pour Action Access Santé. Très très bonne journée à vous, Geneviève. Dans quelques instants, on vous donne la parole. 33 1 84 22 71 71. Ange Paterne sera au téléphone avec nous. Il est à Abidjan. Ça sera juste après Pongo Kuzola. C'est du Kuduro angolais.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que boia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu.
La parole à présent à Ange Paterne qui nous appelle d'Abidjan, très précisément dans le quartier de Cocody en Côte d'Ivoire. Bonjour Ange Paterne.
Bonjour.
Ange Paterne, 37 ans, vous avez étudié au Sénégal, vous avez auparavant un vrai parcours professionnel avant l'entrepreneuriat. Et depuis 2 ans, vous êtes directeur cofondateur de Allo Miam, je crois que c'est un nom assez clair, hein, société de production de fabrication de repas. Pour des personnes actives, c'est-à-dire, bref, pour tous ceux qui bossent, qui ont besoin de se faire livrer rapido un bon petit plat. Sauf que, pour le moment, ce sont les entreprises qui commandent pour leurs employés chez vous, chez Allo Miam. C'est bien comme ça que ça fonctionne, Ange Paterne ?
Oui, oui, tout à fait.
Au départ, vous vouliez démarrer directement avec le client, avec le consommateur, le client final. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas bien, qu'il fallait passer par des entreprises pour leurs employés.
Au début, on a commencé pour les clients finaux. On a vu qu'on n'avait pas la logistique pour et on n'avait pas le répondant. Donc, on a dû réaménager notre business model pour nous focaliser sur les entreprises.
Alors, comment ça fonctionne ? Il y a des abonnements, c'est ça, pour des livraisons d'un minimum de repas par jour ou par semaine ?
Oui, tout à fait. Pour les entreprises peuvent s'abonner chez Allo Miam pour minimum 5 repas et ils sont livrés chaque jour du lundi au vendredi.
Et là, il y a une spécificité dans ce que vous cuisinez, dans ce que vous proposez ?
Oui, tout à fait. Nous proposons des repas typiquement africains, c'est-à-dire africains et ivoiriens, parce qu'on a remarqué que tous les plats à livrer provenaient des fast-foods et ce qui ne cadrait pas avec nos habitudes alimentaires. Oui. Donc, on a voulu proposer quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on retrouvait à la maison, mais au bureau.
Qu'est-ce qu'il y a cette semaine au menu ?
Aujourd'hui, par exemple, on a livré de la loco avec du poisson et en deuxième plat, du chef avec de la viande.
Vous avez dit au standard qu'il y avait aussi une spécificité avec des repas pauvres en sel pour les hypertendus, pauvres en sucre pour les diabétiques.
Tout à fait, parce que moi-même, à la base, je suis hypertendu, donc je suis un régime hyposodé. Donc on a pensé à ces personnes-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment nombreuses dans nos entreprises qui ont des difficultés à trouver de quoi manger tout en respectant leur régime. Donc on a pensé aussi à ces personnes.
Donc il y a une valeur ajoutée culturelle et sanitaire en même temps. Hein. Pour l'instant, vous produisez vos propres repas dans votre cuisine, mais vous avez reçu un agrément, hein, c'est bien cela ?
Oui, oui, on a reçu un agrément au niveau du service d'hygiène pour attester que les repas sont cuisinés quand même dans de bonnes conditions.
Donc vous êtes 6 personnes dans cette équipe ?
Oui.
Vos questions à Didier là, pour essayer de grandir, parce que je sais que vous avez pas mal de demandes et vous avez un problème pour répondre à la demande.
On a vraiment des demandes et on est un peu coincé à l'étroit dans notre usine à la maison.
Oui.
Donc aujourd'hui, sur le marché, on n'a pas la possibilité de pouvoir louer un local à nous pour produire comme il le faut. Donc on a
réfléchi parce que ça serait trop cher, c'est ça, de louer une cuisine professionnelle ?
Trop cher. Donc on a réfléchi à les amis. On a approché certains établissements qui ne proposent que des repas en soirée, donc toute la journée, c'est-à-dire du matin dès 7h jusqu'à 16h, la cuisine est disponible. On a pensé à s'associer avec un restaurant existant pour pouvoir produire le temps de pouvoir...
Donc louer la cuisine, alors attendez, si on a bien compris, hein, Ange Paterne, louer la cuisine d'un restaurant qui ne propose pas de repas en journée, qui n'ouvre que le soir.
Non.
Donc le restaurant, il rentabilise, il fait rentrer un peu de revenus par le loyer que vous versez.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui vous interroge sur cette solution que vous avez trouvée ?
Sur cette solution, nous sommes un peu résistants parce que quand on sait qu'en Afrique ici, la plupart des contrats ne sont pas respectés. Est-ce que le restaurant, après, ne va pas vouloir récupérer notre business ? On est un peu dans ce doute-là. C'est pourquoi je voulais m'adresser au coach pour qu'il nous donne des...
Didier Akwété.
Non, effectivement, attention, la livraison entre guillemets à domicile ou sur lieu de travail, quelque chose qui se répand de plus en plus, tellement les distances sont longues entre le lieu de travail et l'habitation.
Ouais. Dernier trimestre 2018, pour vous donner une idée, hein, Ange Paterne a livré à 10 entreprises 10 repas minimum par jour.
C'est une bonne tendance. Maintenant, par rapport à votre question, alors, c'est astucieux. Ce que vous voulez faire, c'est-à-dire d'utiliser une infrastructure d'un restaurant, c'est très très bien. Pour aller peut-être encore plus loin, pourquoi est-ce que vous n'associeriez pas ce restaurant à votre projet ? Le temps que vous atteignez probablement l'échelle permettant de créer votre propre cuisine, investir, ça peut prendre un peu de temps. Mais si par exemple... vous vous associez à ce restaurateur dans le cadre d'un contrat où il y a un partage de revenus et qui en plus vous évite de payer le temps d'utilisation de ces infrastructures, c'est peut-être aussi une façon d'optimiser aujourd'hui votre investissement. Lorsque en fait, les partenaires voient qu'ils ne sont pas, entre guillemets, c'est pas du win-win, c'est là où effectivement ça leur donne des mauvaises idées.
C'est ça.
Alors que si vous dites dès le début, écoutez, aujourd'hui, votre cuisine n'est pas utilisée. Nous venons avec un nouveau business dont vous pouvez aussi profiter.
Et faire venir les clients le soir, voilà, les employés qui
exactement.
Ont mangé chez Alomiam à déjeuner.
Nous montons une entité dans laquelle vous avez aussi des parts. En contrepartie, nous ne payons pas l'utilisation de la cuisine. Mais comme le disait Emmanuel, nous livrons bien sûr les repas, mais en plus nos clients, vous faites de la pub sur le marché, etc.
C'est ça, bref, ça veut dire faire complètement évoluer le projet, là, associant un restaurateur.
C'est un partenariat qui en plus, parce que je sais que dans une de ces questions, il veut faire des systèmes de franchise. Donc, le principe de la livraison, c'est un principe de respect d'une géographie pour éviter d'aller dans des coûts excessifs. Donc, si vous êtes par exemple à Cocody, si vous devez le livrer à Jamie, vous allez tout de suite voir que vos coûts vont être démultipliés parce que le temps d'abord d'y aller, l'essence qui va être dépensée, bref, le modèle économique risque de ne pas fonctionner ou fonctionnera difficilement. Donc, ça veut dire qu'à terme, Abidjan étant relativement grand d'ailleurs, vous serez peut-être obligé de rentrer sur un modèle de proximité entre le lieu de fabrication des repas et la zone de livraison.
Donc ça voudrait dire que, pourquoi pas garder la cuisine à Cocody, mais s'associer avec un restaurant dans un autre quartier dans ces cas-là ?
Bah bien sûr, c'est-à-dire si demain, il étend son projet, imaginez que demain vous disiez, bon allez, je vais à Boakio et à Moussoukro. Vous imaginez bien que ça va être difficile d'ouvrir des cuisines dans toutes les villes, dans toutes les agglomérations, si dans votre modèle économique, la distance est un élément clé. Donc, votre idée me paraît bonne. Après, comment peut-être associer un peu plus intimement le restaurateur au projet pour en faire en fait un deuxième projet dans le projet, c'est-à-dire nous faisons la livraison à domicile ou sur le travail, mais en plus nous créons un nouveau modèle de production de repas, de livraison, et puis finalement aussi de fidélisation d'une clientèle qui peut tout à fait venir dans le restaurant le soir quand c'est ouvert. Donc c'est un projet dans le projet.
Il faut trouver le restaurateur entrepreneur dans l'âme.
Exactement, et qui accepte de jouer le jeu. Mais c'est une bonne idée.
Bon.
Si vous ne l'associez pas, vous courez le risque que vous craignez. Mais je pense qu'il y a un modèle économique à développer avec des restaurateurs qui sont prêts à jouer le jeu sur d'autres agglomérations. Et du coup, ça pourrait même faciliter le principe de franchise. Ou là, peut-être même dans votre histoire de franchise, le restaurateur pourrait racheter le concept. C'est-à-dire vous pourrez vendre le concept à des restaurateurs qui n'utilisent pas leur cuisine dans la journée, mais qui du coup sont prêts à développer une industrie de livraison sur le lieu de travail. Et là, vous vendez tout votre savoir-faire avec peut-être vous, la Lucie. Donc vous...
Ça change tout le casting, hein, Ange Paterne, pour trouver le restaurateur en question. Là, c'est plus une cuisine disponible que vous cherchez, c'est un associé dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Nous allons essayer de les intégrer. Parce que nous, dans notre développement, on avait pensé pour réduire la distance entre le client et la cuisine, de créer des sortes de miam box un peu partout. Mais la piste que le coach vient de donner tout à l'heure est assez intéressante et nous allons la regarder avec sérieux.
Oui, parce que les miam box que vous aviez imaginé peut-être pour un développement futur, hein, puisque vous visez en 2019 300 repas par jour, hein, quand même, c'était des mini-unités de production. Donc effectivement,
fait,
là,
fait,
ça nécessiterait de repenser un peu le projet. Vous avez une dernière question très très rapidement, Ange Paterne.
Oui, par rapport à la production, comme dans la relance, on veut intégrer des clients en B2C qui commandent eux aussi, mais avec un minimum de 5 repas. Donc c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir prévoir les quantités quand on sait que quand un client appelle ou bien commande sur le site internet qu'on est en rupture deux ou trois fois, c'est difficile d'aller le récupérer.
Ouais, ça c'est pour les repas supplémentaires qui sont commandés par les employés dont l'entreprise est déjà, a déjà un abonnement chez vous.
Et ben, vous voyez, si vous êtes en partenariat avec un restaurateur, le surplus qui n'est pas livré peut parfaitement servir le soir les clients qui viennent au restaurant. Donc, un partenariat intégré peut être un système d'optimisation en réalité de votre business. Et même à terme, je me demande si vous ne devriez pas créer un concept où en fait vous concevez des menus, vous faites le marketing et vous faites la livraison. Et vous vendez le concept à un restaurateur qui lui s'occupe de la production. Donc vous sortez de la production et vous rentrez vous plutôt dans le business de livraison et de market to client, quoi. C'est-à-dire vous cherchez les clients, vous avez votre plateforme logistique, et si un restaurateur dont c'est le métier qui sait en gros qu'est-ce qu'il faut acheter, comment il faut acheter, quelle quantité, etc. Donc qui gère cette partie-là, et vous gérez complètement l'autre partie logistique et marketing du business.
Et la spécificité, repas pauvre en sel pour hypertendus et pauvre en sucre pour diabétiques.
Exactement.
Il n'y a pas beaucoup de restaurants à Abidjan qui ont cette spécificité.
Vous concevez des menus, vous faites votre marketing, vous ciblez la clientèle, vous fidélisez la clientèle, vous gérez la logistique et vous laissez les restaurateurs s'occuper de la partie restauration. Bon, c'est encore un autre modèle, mais probablement qu'avec l'évolution du business,
vous aurez pour Alomiam, Ange Paterne, il y a une application?
Non, pas du tout.
Pas encore.
On n'a pas d'application numérique, on a juste
un numéro de téléphone. Une plateforme internet déjà.
Internet.
D'accord.
C'est un bon début. J'imagine que l'application va suivre parce que c'est pas le plus coûteux. Oui. Non, mais ça va. Ça devrait fonctionner. Après, c'est vrai, il faut trouver le bon modèle économique pour qu'il ne se retrouve pas à devenir restaurateur, parce qu'à l'origine, je ne sais pas si c'est le restaurateur qu'il voulait être, ou plutôt apporter des solutions de restauration sur le lieu de travail. Donc vous voyez, nous sommes dans des modèles de business différents avec ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc dans chaque business, en réalité, quand vous allez découper le business, vous allez voir que c'est peut-être sur un segment de la chaîne de valeur qu'il vaut mieux que vous vous situiez plutôt que sur la chaîne complètement intégrée. Parce que vous voyez là, c'est un autre business. Il faut qu'il investisse dans des cuisines, dans des infrastructures, etc. Dans la chaîne logistique, dans le marketing. Donc, il est sur une chaîne de valeur qui est découpée, mais qu'il veut occuper de complètement du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le meilleur modèle? Peut-être qu'en le faisant évoluer, il verra qu'il vaut mieux qu'il se concentre juste sur une partie de la chaîne de valeur.
Bon, vous avez pris des notes, Ange Paterne?
Oui, beaucoup de notes.
Merci à vous, Ange Paterne, et puis bonne chance pour Alomiam à Abidjan.
Okay.
Vous allez étendre votre toile. C'est le cas de le dire.
Et il faudrait le vendre à Afrique Search Côte d'Ivoire.
Mais oui, surtout que je croyais que vous faisiez livrer des repas de ce type. Toujours très bon quand on déjeune dans votre bureau.
Et nous, le livreur, en fait, il part du bureau, il va chercher.
Donc, ah bah oui, alors et donc vous ne saviez pas. Et bah oui, voilà. Et bah, il va faire appel à vos services. Très bonne journée à Abidjan, Ange Paterne. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 ou bien vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Vous êtes un JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne. Vous êtes à l'honneur dans l'émission chaque mois avec le coach Didier Akwété. Et on vous donne la parole juste après African Disco. Pendant ce temps, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
Pas de maladie. Pourtant je suis pas guéri. Dans ma caboche, y'a un truc qui cloche. Monsieur le tout-puissant me dit d'élever le pied. L'ordinateur de ma tête a bugué. Rien dans mon caddie. Pourtant je suis pas aigri. Pas gâté, pas moche. Y'a un truc qui cloche. Monsieur le sorcier a dû me marabouter. On n'a plus qu'à faire la fête qu'à bugué. Je tremble sur Africa.
Pour passer dans l'émission en direct, discuter avec le coach Didier Akwété, qui n'ont pas encore peaufiné leur projet, qui n'ont pas encore lancé leur petite entreprise. Bien sûr, n'oubliez pas, il y a un numéro, une adresse mail, 7milliards@rfi.fr pour passer dans l'émission suivante le mois prochain. Aujourd'hui, Jessie est prêt à discuter, à dialoguer avec le coach. Jessie, vous avez 33 ans, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez un parcours avec une licence en relations internationales, vous avez été assistant des opérations de fonds, puis responsable d'un projet agro-pastoral jusqu'en février dernier, puis ensuite au chômage technique. Vous ne savez pas encore si l'activité va redémarrer. En attendant, vous ne vous croisez pas les bras. Un projet vous tient à cœur, que vous avez démarré tout petit pour le moment. Vous avez créé un projet d'assainissement pour tous, c'est-à-dire une société de ramassage des ordures ménagères. On s'en doute, les besoins sont immenses dans une ville comme Kinshasa de plusieurs millions d'habitants. Comment fonctionne votre petite activité de ramassage des ordures ménagères, Jessie ?
Nos clients commencent par payer $1 d'enregistrement et ils vont remplir un formulaire. Et nous allons leur remettre une fiche qui est la condition sine qua non pour avoir accès à nos services. Une fiche mensuelle, évidemment.
Oui.
Cette fiche est renouvelée une fois que vous avez payé la facture. Et nos agents passeront. Ils récupèrent le déchet et parlent sur la fiche et ils les acheminent vers le point de décharge que nous avons ciblé.
Et vos agents, ils passent tous les jours ?
Nous récupérons le déchet 2 fois par semaine. Ça fait 8 fois par mois.
D'accord.
C'est moyen un coût moyen de $3 par mois.
$3 par mois. Ça veut dire que vous ciblez clairement, non pas les ménages très aisés à Kinshasa, mais les ménages qui, pour le moment, n'ont pas accès à du ramassage d'ordures.
Nous sommes dans une ville de plus de 12 millions d'habitants qui produisent des déchets au quotidien. Il y a une forte demande là-dessus. Malheureusement, d'une manière formelle, il n'y a pas d'offre. C'est pourquoi nous avons initié ce projet pour révolutionner le secteur en mettant en place un service professionnel de très bonne qualité, mais cette fois-ci avec des coûts accessibles à toutes les couches de la population. C'est pourquoi nous leur proposons un service de qualité à $3 par mois. Par contre, pour les établissements, le marché et autres, il y a un cahier de décharge qui détermine la responsabilité des uns et des autres pour que nous puissions exécuter cette tâche.
D'accord. Pour le moment, vous collectez combien en poids de déchets par semaine ?
3 à 5 tonnes par semaine.
Et donc, ça veut dire que vous vous occupez de certains quartiers bien définis ?
Oui, évidemment, nous avons nos clients ciblés, nous avons certains quartiers. Avec des moyens très limités, nous avons voulu commencer par cibler le plus démunis. La plupart de nos clients payent moins de $3. Donc c'est un peu ça. Nous avons ciblé certains coins, ce qui nous sert de référence. Lorsque nous avons réuni tous les matériels, nous serons sûrs et certains que les autres clients auront la facilité d'avoir accès à nos différents services.
Alors pour le moment, ces déchets ensuite, ils sont livrés dans des points de décharge qui sont gérés par les autorités de la ville, qui emmènent elles-mêmes ces ordures, soit pour être brûlées, soit pour être déversées, de manière relativement informelle, il faut bien le dire.
C'est ça le vrai problème que nous avons dans la ville, parce que l'autorité de la ville, particulièrement le numéro 1 de la ville, a pu reconnaître d'une manière officielle qu'ils étaient en difficulté d'atteindre ses objectifs d'assainissement. Mais il y a un nombre très limité de points de décharge publics créés par les autorités dans une si grande ville comme la ville de Kinshasa. Mais en dehors de ces points de décharge, il y a certains sites qui sont victimes d'inondations et de mauvaises canalisations de cours d'eau. Ces sites nécessitent évidemment qu'on puisse déverser les décharges là pour qu'ils puissent essayer de lutter contre ces ravins.
Avec des catastrophes, d'ailleurs régulièrement dans des grosses villes africaines. Quelles sont vos questions à Didier Akwété, Jesse?
Nous avons eu à lancer anticipativement une campagne de porte en porte pour essayer de sensibiliser la clientèle. Et malheureusement pour nous, il y avait une forte demande après cette campagne et nous n'étions pas en mesure de répondre à cette demande parce qu'on n'avait pas pu réunir tous les moyens nécessaires.
C'est-à-dire que vous avez fait une campagne de porte-à-porte, les gens ont dit oui, d'accord, on est prêt à payer, on est intéressé par ce service, pour cette somme modique. Et puis vous n'étiez pas en mesure de répondre à la demande et de répondre à toutes les demandes positives, c'est bien ça?
C'est clair.
C'est une noble initiative. Souvenez-vous, on a vu le même projet au Gabon et dans d'autres pays, en dehors du fait qu'effectivement, c'est une initiative qui est noble. C'est pareil, comme disait au début de l'émission, c'est l'échec de l'État, quoi. Nettoyer les quartiers, on peut même pas nettoyer les quartiers dans nos villes. Signer des contrats de concession pour ça, c'est juste scandaleux. Mmh. Donc c'est vraiment la faillite, vraiment, des États. Maintenant, pour répondre peut-être aux besoins et à la question...
Et au modèle économique aussi.
De Jesse, le modèle économique, on l'a éprouvé partout ailleurs. Si l'État peut pas jouer son rôle bref... C'est un modèle qui ne peut se développer que très lentement, parce que c'est du bricolage, quoi. C'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire, ce que vous faites est bien, mais c'est du bricolage à l'échelle d'une ville de 12 millions d'habitants. Donc c'est bien, c'est une initiative qui a une dimension sociale, mais aussi qui peut donner de l'emploi à des jeunes. Alors peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'est cartographier la ville et les quartiers pour regarder... Dans quelle mesure vous auriez pu identifier des jeunes qui sont prêts à rentrer dans ce genre de projet, quitte à ce qu'ils apportent un minimum, ce qu'on appelle, on se fait aider par la famille, parce que peut-être l'investissement au départ n'est pas extrêmement lourd, mais
au moins une charrette et un âne.
C'est une approche extrêmement décentralisée que vous pourriez avoir aujourd'hui parce que vous n'êtes pas une industrie, vous n'êtes pas une grosse entreprise. Donc, il faut associer d'autres jeunes ou d'autres personnes qui ont envie d'investir dans ce domaine qui peut être rentable. C'est-à-dire, si vous faites du volume, où il y a du trafic, les gens peuvent en vivre. Mais c'est un modèle qui est extrêmement déconcentré, décentralisé, où vous devez trouver, à partir d'une cartographie des villes, d'autres jeunes, d'autres
des quartiers,
équipes,
des communes,
qui sont intéressés par ce projet, et donc vous allez, c'est pas vraiment de la franchise, hein, mais c'est tout comme, c'est-à-dire vous allez devoir franchiser un peu le projet, et vous êtes
au centre de tout ça. Pour démarrer grand assez vite finalement.
Exactement, pour ne pas être coincé par les limites que vous indiquez. Vous n'avez pas les ressources pour recruter du monde, acheter de l'infrastructure, déployer vos équipes sur le terrain, donc essayez de trouver des partenaires, d'autres jeunes, voire moins jeunes, qui veulent investir dans le business et vous apporter le modèle économique. Et vous gérez, à la limite, in fine, la décharge et la collecte des fonds une fois que les équipes sont sur place, sur le terrain. A priori, pour l'instant, je pense que c'est une approche qui est plus réaliste que d'aller voir une banque qui va vous donner de l'argent pour aller acheter des charrettes, des bennes à ordures.
Malgré les volumes prometteurs.
Oui, mais c'est des particuliers. Si vous étiez sur des contrats corporates, donc des entreprises qui vous signent des contrats à l'année, les banques sont plus confortables parce que vous avez des revenus certains qui seront donc payés par les entreprises. les particuliers. Il y a une certaine incertitude aussi hein, dans la collecte des ressources, et ce sont des montants assez faibles. Après, c'est vrai qu'on voulait ramener à une population très large, ça, c'est des montants conséquents, mais généralement, les partenaires financiers ne sont pas prêts à s'engager sur une cible de particuliers auprès de laquelle vous aurez peut-être du mal à mobiliser les ressources, et voire même si vous n'allez pas déposer l'argent en banque. Donc, vous voyez,
oui. Donc déconcentrer le projet immédiatement et trouver immédiatement des jeunes qui veulent s'investir dans ce projet.
Exactement. Et puis, si la clientèle professionnelle, vous pouvez aussi la servir dans une certaine mesure, n'hésitez pas, parce que au moins, celle-là devrait pouvoir vous payer de manière constante, régulière, et du coup rassurer une banque qui pourrait mettre un peu d'argent derrière. Alors après, sur des projets comme ça, vous savez, comme il y a une dimension un peu sociale et puis presque humanitaire, entre guillemets, vous pourriez trouver des entreprises internationales qui sont prêtes à vous faire des dons de matériel pour justement éviter la partie investissement pour vous. Et au moins, si vous avez du matériel qui vous arrive sous forme de dons, après, vous n'avez plus qu'à mobiliser les équipes autour du projet du déploiement à l'échelle des différentes communes de Kinshasa.
Oui. On a bien compris, Jessie, que votre problème, ce n'est pas de trouver des clients, hein, mais c'est plutôt de vous étendre rapidement et d'avoir de quoi répondre à la demande des clients. Jessie, est-ce que les conseils du coach vous ont été utiles?
Évidemment, les conseils ont été vraiment utiles, et bénéfiques pour moi, sauf que le coach est revenu juste par ce que fait la concurrence à Kinshasa ici. Et par rapport au calcul que nous avons effectué avec les 3 dollars par mois, il s'avère que nous parvenions à mobiliser, nous avons fait nos calculs, au moins 5% de la population kinoise représentera pour nous 60 000 ménages. Mmh. Et si vous multipliez 60 000 ménages multipliés par 3 dollars, si nous arrivons à atteindre 5% de la population kinoise dans nos services, nous aurons mobilisé plus de 180 000 dollars le mois. Vous imaginez, oui. Après 10 mois d'exercice, ça donnera des millions de dollars. Donc,
on est d'accord. Donc il y a de la place pour tout le monde, y compris pour la concurrence, hein, sur ce type de marché. D'accord.
Donc, ce sont des gros montants, hein, je n'en disconviens pas. C'est-à-dire, si vous pouvez faire payer les clients en avance, là, vous commencez à intéresser un banquier. C'est-à-dire, s'il paye, par exemple, 3 mois d'avance, là, vous avez de la trésorerie qui vous permet de mobiliser des ressources auprès de partenaires financiers.
Merci à vous, Jessie. Pour ceux qui n'ont pas pu passer dans l'émission, vous pouvez bien sûr nous contacter pour passer dans l'émission du mois prochain avec le coach Didier Akouété, 7milliards@rfi.fr.
7 milliards des voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Un mot de conclusion, Didier. 3 projets, de la gestion de déchets, de l'accès à la santé, de l'agroalimentaire, du service plutôt, de repas tout près. Ça cartonne déjà dans pas mal d'autres pays. Quel est le projet là en ce moment qui vous inspire?
Je pense que le projet agro et santé sont des projets très excitants. Pas que celui de la collecte de déchets ne soit pas excitant, mais c'est que Jessie est sur un modèle où il faut vraiment du volume d'investissement pour pouvoir bien remplir sa mission. Les deux autres, on peut commencer petit et grandir assez vite avec des petits moyens. Le problème, et c'est de ça qui est frustrant, c'est la question de la, en anglais on dit scalable, de la croissance accélérée. Quoi. Comment aller plus vite sur ces projets? Parce que vous voyez, c'est des beaux projets, mais on voit bien que c'est des petits blocages qui empêchent ces projets de grandir.
Et si on ne va pas assez vite, on est mangé par la concurrence.
Mais bien sûr, parce que le marché se développe, des nouveaux acteurs arrivent, on voit bien que l'écosystème n'est pas favorable au développement plus rapide de ces projets, comme on le voit dans d'autres pays. Donc, c'est toujours un peu frustrant de voir qu'il y a de bonnes idées qui répondent à des besoins, qui a un marché.
Bon, Didier Akouété frustré, mais il veut bien revenir le mois prochain quand même. Hein. Je vous rassure, les voisins.
Oui, je reviens toujours, Emmanuel.
7milliards@rfi.fr. Allez, vous nous contacter pour dialoguer le mois prochain avec Didier Akouété. Didier Akouété, à la fin du mois 28-29 septembre.
Oui, le rendez-vous de l'emploi Afrique Talent Abidjan, rendez-vous incontournable.
Et tout simplement pour se renseigner, envoyer son CV, discuter avec des partenaires.
Sur le site Afrique Talent, les dynamiques de l'emploi, les opportunités d'emploi.
Afrique Talent, à retenir.
Un bonjour spécial à mes amis de la BO à Délomé.
Demain, 7 milliards de voisins enquêtent sur ces mineurs prostitués en France, dans les toilettes du collège, sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a des jeunes filles âgées, oui, je vois votre effarement, Didier Akouété, des jeunes filles âgées d'à peine 13 ou 14 ans qui vendent leur corps, non pas pour survivre, mais pour être libres financièrement. Des mamans racontent leur calvaire, leur impuissance face à ces adolescentes en France, qui se décrivent, elles, non pas comme des prostituées, mais comme des escortes. Alors comment comprendre et lutter contre ce phénomène largement méconnu? Ne manquez pas l'émission demain, 10h10, temps universel. On parle décidément de tout chez 7 milliards.